À rencontre spirituelle en ce jeudi saint, je voudrais vous parler de l'Eucharistie, du mystère de l'amour. On en a parlé un peu à Radio Ville-Marie ce matin, de façon fort intéressante. Et je voudrais approfondir la question, parce que c'est très important, de se rendre compte que quand on va à la messe, c'est quoi? C'est toute une façon de vivre à fond l'amour que Dieu nous porte et tenter d'y répondre. Grâce à l'amour qu'il dépose en nous. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il ne faut jamais oublier, et c'est à la base de la foi chrétienne, ça. Dieu communique la vie divine à la sainte humanité de Jésus, et il nous communique cette vie divine par l'humanité de Jésus. Dans la très sainte Eucharistie. Parce que Dieu, on le sait, mais est-ce qu'on y pense vraiment? C'est l'océan de la vie. Hein? Et cette vie qui est lumière et qui est amour, a soif de se répandre et de se donner. Hein? Dans notre foi chrétienne, notre façon de parler de Dieu, dans nos mots, par rapport à la suite de la révélation qui nous a été faite, c'est que éternellement le Père se donne à son Fils. Puis ensemble, le Père et le Fils se donnent au Saint-Esprit, lui communiquant leur unique divinité de toute éternité. Éternellement aussi. Par une miséricorde qui est absolument ineffable, fantastique, Dieu a résolu, dans son amour, de communiquer sa vie sainte, sa vie, comme on l'appelle, béatifique, à la créature que nous sommes. Il a résolu de dire à cette créature que nous sommes son Verbe, de lui donner son esprit, de la faire communier à sa nature, dans la lumière et dans l'amour. Vous direz que c'est bien mystique, que vous n'y entendez rien. Laissez-vous plonger, laissez-vous entraîner. Il faut vivre de ce grand mystère qu'est la très sainte Trinité, qui est un mystère d'amour. Parce que la révélation que Dieu a faite de lui-même, elle aboutit dans la Bible à ce mot magnifique de Saint Jean, l'apôtre, quand il dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Mais c'est dès le début que la Sainte Écriture tend à ce sommet. Il n'y a pas d'opposition totale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est faux de dire ça. D'après la révélation que Dieu a faite à Moïse, Dieu se révèle déjà comme le clément, le miséricordieux, celui qui pardonne leurs péchés à des pécheurs, même si, comme on dit dans l'Exode, chapitre 34, verset 7, qu'il punit les pécheurs qui ne veulent pas être pardonnés, il les punit de génération en génération. Oh, oh, Jésus a apporté un terme à cette croyance. Quand l'Écriture nous parle de Dieu, elle indique toujours comme motif de son action sa compassion. Souvent, on utilise le mot « pitié ». Aujourd'hui, ce n'est plus très bien vu, la pitié. On préfère la compassion, ça revient au même. Le motif aussi de son action, c'est bien dit dans l'Ancien Testament, c'est son amour. Son amour pour Israël, mais aussi pour tout ce qu'il a créé. Et toute la révélation que Dieu fait, c'est une révélation d'amour. Et si les œuvres divines là, nous montrent la toute-puissance créatrice de Dieu, bien, cette toute-puissance n'est qu'un aspect d'un amour qui ne connaît pour aimer d'autres motifs que lui-même. Hein? Bien oui, je vais développer ça tout à l'heure. C'est très important de comprendre ça si on veut vraiment croire et être heureux dans notre foi. Malgré ce que prétendait Marcion, bon, c'est un... quelqu'un qui est que crée bien des problèmes à l'Église, il y a des siècles et des siècles au début de l'Église, il n'y a pas vraiment d'opposition entre l'Ancien puis le Nouveau Testament. Dieu est un. L'Ancien Testament, c'est seulement, on pourrait dire, disons, l'aube, le début de la lumière, là, d'un jour plein de lumière. Hein. L'Ancien Testament, il prépare, il préfigure, puis il attend, quoi, la révélation ultime, là, qui va se réaliser par l'incarnation du Fils de Dieu, de Jésus. Il est beaucoup question de la colère de Yahvé dans l'Ancien Testament. Mais, quand on y pense, c'est un peu en continuité avec la colère de l'agneau dans l'Apocalypse, là, au chapitre 6, verset 16, puis aussi au chapitre 19, verset 15, il est question là, de cavalier. Mais oublions ça. Cette colère, les exégètes ont eu bien des problèmes avec ça, mais on finit par essayer de penser que c'est un aspect de l'amour qui s'exprime de cette façon-là par les écrivains sacrés. Toute l'histoire de la révélation divine, au fond, c'est l'histoire d'un amour qui s'annonce déjà, hein, dans la promesse d'une rédemption. Vous savez, hein, au début de la Bible, il y a une promesse de rédemption. Dès après le premier péché qui est relaté, le péché de Adam et Ève, qui, selon bien des exégètes, représente tout homme et toute femme. C'est l'histoire d'un amour, la Bible, un amour qui ne cesse d'être offensé et qui ne cesse jamais d'aimer. Parce que cet amour de Dieu ne se laisse jamais abattre tout au long de l'histoire d'Israël, jusqu'à ce que la révélation là, se parachève dans le don que Dieu fait de son Fils pour la libération du monde. Hein, j'en ai parlé mardi à l'occasion de l'Annonciation. C'était la fête, si on peut dire, puis reportée dans cette année parce que c'est la Semaine Sainte, la fête de l'incarnation. Le Fils s'incarne dans le corps très pur de Marie. Et nous célébrerons sans grande pompe le jour de Noël au moment où l'enfant naîtra. Je vous ai dit que Dieu est amour. Vous connaissez ça, c'est la parole de Saint Jean. Mais dans l'Écriture, cet amour, c'est avant tout l'amour que Dieu a pour l'homme. Hein? Que Dieu soit amour en lui-même, l'homme ne le saura que lorsqu'il fera partie de la famille de Dieu, surtout quand on sera au ciel, quoi. Jusqu'à l'apôtre Saint Jean, Dieu n'est pas encore l'amour, mais il est quand même celui qui aime, hein? On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu aime, il aime sans avoir en dehors de lui qui aimait, parce que c'est avant la création, puis il crée les êtres auxquels va se porter son amour, car l'amour de Dieu crée son objet. C'est un amour gratuit. Dieu aime sans motif ni raison. Pour ça qu'il aime tout le monde. L'amour de Dieu ne se contente pas de créer les êtres et de sauver les hommes. Cet amour engage Dieu lui-même. Et parfois, dans la Bible, on a l'impression que cet amour le trouble, l'irrite, le fait descendre jusque parmi les hommes pour les punir et les sauver. Cet amour le fait habiter au milieu d'eux, le charge lui-même du destin du bien-aimé, puis le fait devenir homme. Chez Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, dans les textes du Nouveau Testament que vous connaissez, c'est plutôt l'abaissement d'une personne divine qui se fait chair, qui est l'acte suprême, ça, de l'amour divin. Chez Saint Paul, c'est surtout la passion du Fils de Dieu qui subit la mort. On pense souvent, et surtout, que Dieu dépasse l'homme infiniment. Et on a raison, d'ailleurs. Que son action transcende tout jugement humain. Puis que la grandeur inaccessible de Dieu est constituée principalement par cette transcendance d'un pouvoir auquel rien ne résiste, puis d'une sagesse là, qui gouverne tout, puis d'une sainteté qui isole Dieu infiniment loin de la création. C'est vrai dans un sens. Vous savez, les gens qui disent « Oh, j'y crois au bon Dieu en haut, là-bas, là-bas, loin, loin, là. » Mais la transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu, elle est due spécialement à son amour. On trouve ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Osée. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Éphraïm, car je suis Dieu et non un homme. Puis, on peut lire dans Isaïe, au chapitre 55, « Cherchez Yahvé, car il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il se convertisse à Yahvé, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui pardonne généreusement, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Les voix, c'est des façons d'agir, les mœurs de Dieu ou des hommes. Hein? Alors je dis donc, « Et vos façons d'agir ne sont pas mes façons d'agir, oracle de Yahvé. » Mais autant le ciel est élevé par rapport à la terre, autant mes façons d'agir sont élevées par rapport à vos façons d'agir, et mes pensées par rapport à vos pensées. Puis vous vous souvenez du psaume 103, probablement on l'entend dans la liturgie. « Autant les cieux sont élevés par rapport à la terre, autant est grand son amour pour ceux qui le craignent. » Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant de nous il éloigne nos fautes. C'est pour ça qu'il faut se confesser ces jours-ci, c'est le temps d'éloigner nos fautes, de les envoyer à l'autre bout du monde. De l'Ancien Testament, cette doctrine passe dans le Nouveau, hein, dans le Nouveau Testament. Saint Paul, il termine la partie, on pourrait dire, doctrinale de sa belle lettre aux Romains, en s'inspirant du prophète Isaïe. Il écrit ceci, « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !» Que ses jugements sont insondables et ses façons d'agir incompréhensibles. Et après avoir dit que Dieu est immensément riche d'amour à notre égard, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, saint Paul termine son message par cette superbe affirmation. Il dit « L'amour de Dieu défie toute connaissance ». Et c'est saint Jean qui va dire, oh, c'est beau, hein? C'est donc beau la Bible quand on y pense, c'est donc beau le Nouveau Testament. Saint Jean qui dit « Si nous aimons, nous rassurerons notre cœur ». Alors même que notre cœur nous adresserait des reproches. Car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais l'amour dont parle la Bible, les Saintes Écritures, n'est pas seulement celui que Dieu porte à l'homme. Cet amour n'est pas non plus seulement celui qui définit la nature divine, la nature de Dieu. Il est aussi question de l'amour que l'homme doit avoir pour Dieu. Et c'est sa vocation, c'est notre vocation d'aimer. Nous avons tous une vocation, puis c'est cette vocation, aimer, aimer Dieu, aimer les autres. C'est pas facile. Tous les commandements se résument dans la loi de l'amour. C'est dit dans Saint Matthieu, c'est Jésus qui le dit dans Saint Matthieu, chapitre 22, verset 40. Il a dit, tous les commandements se résument dans la loi de l'amour. Ça sert à rien de crier, de hurler. Contre ceci puis cela qu'on voit dans la société, mieux vaut essayer d'aimer ceux qui sont dans le trouble et la difficulté. Et celui qui aime a de ce fait accompli la loi, c'est saint Paul qui le dit. Alors avant même les évangiles, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Mais le Deutéronome a vu dans l'amour le commandement suprême par lequel Yahvé s'attache Israël. L'alliance de Dieu avec l'homme, c'est une alliance d'amour. Dieu se donne gratuitement à Israël. Mais, c'est important, l'alliance subsiste seulement si Israël répond à cet amour divin, puis s'il se résout librement à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et dans le Deutéronome, chapitre 6. Mais l'Évangile ne nous donne pas un autre enseignement. Toute la loi tombe, seul demeure le commandement nouveau, qui n'est plus écrit sur des tables de pierre cette fois-ci, mais dans le cœur de l'homme. Et l'amour de l'homme pour Dieu, voilà ce qui touche et anime le cœur de l'homme. C'est si on a de l'amour pour Dieu, ça nous pousse irrésistiblement en avant. Et Dieu, puis en Dieu, l'amour qui était condescendance, il devient une force là, qui soulève l'homme tout entier puis l'élève jusqu'à Dieu. Et nous verrons tout à l'heure la suite pour vous faire comprendre jusqu'à quel point dans l'Eucharistie notre amour peut être soulevé. L'amour, c'est une passion vive et douloureuse. C'est une aspiration brûlante. On le voit dans un psaume que l'on entend souvent comme « La biche aspire après les eaux courantes, ainsi Dieu vers toi mon âme aspire. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc irai-je contempler la face de Dieu ?» On voit là C'est une passion vive, c'est une passion douloureuse, c'est brûlant. Hein? Et saint Paul aussi a connu cet amour passionné. Comme tant et tant de saints dont je vous ai parlé, puis dont je vous parlerai encore. Dans l'Épître aux Philippiens, saint Paul explique ça de façon bien sympathique. Il dit « Je me sens pris entre deux désirs. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, et ce serait de beaucoup la solution la meilleure, mais il est plus urgent pour votre bien que je demeure ici-bas. » Or, cet amour, c'est un désir du fait que Dieu, le Dieu des Juifs en particulier, est loin. Hein? Le Juif exilé soupire après le Temple et puis la Cité Sainte, Jérusalem, où Dieu a sa demeure. Nous, chrétiens exilés, nous aussi, sommes comme des pèlerins et nous soupirons avec saint Paul, après le Christ, qui ne vit plus parmi nous, au milieu de nous, comme pour saint Jean et saint Matthieu, hein? Mais qui est monté aux cieux. Et cet amour est à la base d'une sorte de mystique qu'on a vu tout au long de l'Église, qui existe toujours, qui s'apparente un peu à l'hellénisme. Et s'il faut, dans cette mystique-là, il faut s'évader du monde pour atteindre Dieu, puisque Dieu est loin. Et le chemin par où l'on doit passer, ben, ce serait l'extase, ce serait même la mort. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, surtout au début de l'Église, et même encore peut-être aujourd'hui, souhaitent le martyre. Il faut sortir du monde, sortir du corps, mais aussi sortir de soi-même. Je tiens à préciser que c'est pas seulement une recherche anxieuse de Dieu, l'amour. C'est pas seulement un désir insatiable, c'est pas seulement une passion douloureuse d'une âme là, qui a faim et soif. Cet amour, c'est encore un acte que je dirais de vision et de possession. Il y en est question dans le psaume 73. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'acte d'aimer, l'homme se trouve déjà en communion avec Dieu. Il vit de sa vie. Bien oui, dans l'acte d'aimer, le chrétien se trouve déjà en communion avec Dieu. Il vit de sa vie, et cet amour du chrétien est nourri par le pardon. En bonne partie. Je vous le dis, aimez vos ennemis, afin que vous soyez les fils de votre Père Céleste. C'est Jésus qui dit ça. Pour être le fils du Père Céleste, il faut aimer ses ennemis. Nous sommes en communion avec Dieu. Dieu est en nous. C'est moins une réponse de l'homme à l'amour de Dieu que le prolongement de cet amour divin, là, qui se répand à présent dans le monde, à travers les hommes, à travers les femmes, se débouche dans les frères, dans les sœurs. Et dans les écrits de saint Paul, mais surtout dans ceux de saint Jean, l'apôtre, l'amour de l'homme pour Dieu s'identifie à l'amour de l'homme pour son prochain. Le disciple aime ses frères et ses sœurs comme il a été aimé par le Christ. Et tous les commandements se résument dans l'amour du prochain, déclare d'abord saint Paul, puis saint Jean. Puis, oubliez pas ça, c'est très important, hein? Grâce à l'incarnation du Fils de Dieu, nous pouvons désormais voir Dieu, l'atteindre et l'embrasser en chacun de nos frères, de nos sœurs. Car tout ce que nous faisons pour n'importe lequel de nos frères et de nos sœurs, le Christ le retient comme fait à lui-même. Il s'identifie à chacun de nos semblables, et c'est dans cet amour fraternel que s'identifie en fin de compte l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu. Les prophètes, ils reviennent sans arrêt hein, sur la gratuité de l'amour divin. L'alliance divine est une alliance d'amour. Hein. Mais on a un problème, il y a la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Hein. Quand Israël, comme une épouse infidèle, elle s'éloigne de son Dieu, hein, elle l'oublie, puis elle le trahit. Mais Dieu persécute Israël. Dieu dépouille Israël. Dieu frappe durement Israël. Mais la violence même de Dieu, disent les exégètes qui se sont penchés là-dessus, est un acte d'amour, exprimé ainsi à travers les malheurs que subit Israël. Comment ça? Dieu ne peut pas rester courroucé. Il ne sait pas faire durer sa fureur, dit-on, toujours quand on pense au Dieu dans l'Ancien Testament. Hein. Par le châtiment dont il accable Israël, sa colère se change en une pitié irrésistible. Et Dieu revient, dans l'Ancien Testament, à l'épouse infidèle à Israël. Il la rappelle. Il l'amène de nouveau au désert où pour la première fois s'était conclu entre eux un pacte d'amour. On trouve ça dans Osée, chapitre 2, verset 16. Et grâce à l'amour inconcevable de ce Dieu qui oublie l'offense et qui offre en échange une plus grande tendresse, l'épouse Israël, coupable, l'épouse coupable, revient. Elle est repentante. Et finalement, elle répond à l'amour de l'époux. Qu'est donc cet amour de Dieu? Nous savons, nous, qui acceptons Jésus, c'est que Dieu nous aime dans le Christ. Il n'y a pas là un simple acte de bienfaisance. Tout le Nouveau Testament nous révèle le sérieux de l'amour de Dieu. On n'a pas tout dit quand on a reconnu que cet amour est gratuit, puis qu'il est un pardon, supposant évidemment le péché. Puis, il précède même le repentir, hein? Je vous l'ai déjà dit dans la parabole de l'enfant prodigue, le père, qui représente Dieu, court vers son fils avant, puis l'embrasse avant même qu'il exprime son repentir. Il faut ajouter que cet amour engage Dieu à fond. Pour Dieu aimer, là, c'est pas seulement élever l'être aimé jusqu'à soi pour lui donner part à sa propre vie puis à sa noblesse, c'est encore et en premier lieu s'abaisser jusqu'à l'homme puis partager son destin. On le vit ces jours-ci avec Jésus, qui est Dieu. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul a souligné la gratuité de l'amour de Dieu, mais le Nouveau Testament, il met l'accent moins sur la gratuité de cet amour, comme l'ont fait les prophètes, là, que sur sa vérité, son authenticité. Il s'agit d'un amour qui n'est pas pure bienveillance, mais c'est un don de soi jusqu'à la mort, un sacrifice total. On va vivre ça ce soir, cette nuit, et demain, et samedi. Personne n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour est vraiment au centre de toute la révélation chrétienne. Il en est le principe. Il en est la fin. La révélation de l'amour s'identifie à la révélation même du mystère de Dieu et d'un Dieu qui, tout en étant un par nature, c'est très important, subsiste en trois personnes, dont chacune est pure relation d'amour pour l'autre. De Denis le Mystique à Saint Bonaventure et jusqu'à nous, on a contemplé le mystère de la vie intime de Dieu, le mystère de la divine Trinité, comme le mystère d'un amour incréé, un amour qui n'a jamais été créé, qui n'a pas de début, éternel, infini. Ô Dieu solitaire de l'islam, un Dieu seul dans l'islam. Ô Dieu isolé des philosophes. Mais la théologie chrétienne a toujours opposé la doctrine d'un Dieu qui vit dans une fantastique communion d'amour. L'amour de Dieu pour l'homme a son fondement premier dans cet amour éternel et infini. Si Dieu n'avait pas été amour en lui-même, dans sa vie intime éternelle, jamais, jamais il n'aurait été amour pour l'homme, jamais il n'aurait pu être amour, et l'on voit dans l'islam toute cette part de l'islam des musulmans qui pensent que il faut tuer son prochain, il faut tuer ci, il faut égorger les femmes. C'est terrible. Ça affecte beaucoup le cœur de bien d'autres musulmans, hein? Mais ça affecte surtout notre cœur de croyants. Le fondement de l'amour de Dieu pour l'homme, c'est l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Et oui, aujourd'hui, à l'occasion du Jeudi Saint, il est question de l'amour de Dieu pour nous, qui s'est manifesté en Jésus-Christ de façon fantastique et qui se manifeste tous les jours dans l'Eucharistie. Puisque ce soir, nous allons célébrer dans l'Église l'institution de l'Eucharistie par Jésus, qu'ayant réuni ses apôtres, leur a prononcé ces paroles extraordinaires, insensées dans un sens. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Seul Dieu peut prononcer de telles paroles. Un homme ne peut pas dire de telles choses. Revenons à l'amour de Dieu pour l'homme, dont le fondement, c'est l'amour dont Dieu s'aime lui-même. Dans la Trinité. Dans l'amour qu'il porte à l'homme, il ne fait que manifester au dehors sa propre vie intime, Dieu. Mais il ne se contente pas de montrer à l'extérieur ce qui est sa propre nature, Dieu va jusqu'à faire entrer la créature que nous sommes dans le mouvement ineffable de sa vie. Il nous ravit. Il nous emporte dans le fleuve immense de lumière qui procède éternellement du sein du Père pour refluer éternellement en lui. L'amour de Dieu pour nous, c'est l'incarnation du Verbe, son Fils éternel. La génération du Fils unique dans la chair, au sein du monde, puis l'assomption du Christ dans la gloire du Père. La révélation de l'amour de Dieu, à ces mots de l'apôtre Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. L'amour de Dieu, c'est un amour réel. Il est vraiment le don que Dieu fait de lui-même. Vous allez à l'Eucharistie aujourd'hui? Dieu va se donner à vous encore une fois. Mais il se donne à nous à chaque instant si nous ouvrons notre cœur. Ce n'est pas la création qui nous révèle immédiatement l'amour divin et nous assure le don de cet amour. La création, c'est seulement une condition préalable. Quand on regarde en particulier la nuit, en été, là, le ciel immense, ou qu'on regarde à la télévision tout ce qu'on nous montre de cette création admirable, ce n'est qu'une condition préalable. Ça. L'élection d'Israël, le don de la loi, sont seulement des figures, des prophéties, des ébauches. Dans l'histoire d'Israël, tout n'est que promesses. Les promesses ont pour unique et suprême accomplissement quoi? L'incarnation même du Verbe. La mort de la croix. L'ascension du Christ. L'amour de Dieu pour l'homme, pour la femme, c'est un amour prévenant et gratuit. C'est l'amour même de Dieu et d'un Dieu qui ne peut se passer de soi. Ce n'est donc pas simplement un don. Dieu pourrait se passer de la réponse de l'homme s'il ne se donnait pas lui-même. Mais de même qu'à la génération du Verbe, le répond éternellement l'acte par lequel celui-ci revient vivre dans le sein du Père. De même, à l'incarnation de Dieu répond l'assomption de la nature humaine en la personne du Christ. Un peu compliqué, mais c'est très beau. À la descente de Dieu répond l'ascension de l'homme. Dieu aime en vérité. Plus que sur la gratuité de cet amour, le divin, la Bible insiste sur son incommensurable réalité. Dieu s'est engagé à fond. Il se donne sans réserve, ni hésitation, ni réticence. De même que toute la fécondité de Dieu s'épuise dans la génération du Verbe, ainsi sa divine sagesse, sa toute-puissance, s'épuise en quelque sorte dans l'amour qu'il porte à l'homme et à la femme, et dans cet amour se révèle sa gloire infinie. En se donnant, Dieu ne peut se dépouiller, se vider de lui-même, c'est évident, ni rien abdiquer de son être singulier puis incomparable, c'est évident. Toute la nécessité de son être engage désormais l'homme, parce qu'il a tant de nous autant qu'il a donné. Il a donné quoi? Lui-même. La passion sans mesure qui s'exprime dans son langage d'amour s'accomplit dans l'acte même par lequel il se donne, et plus particulièrement dans l'Eucharistie. L'amour de Dieu s'identifie à la mort du Christ. L'incarnation même du Verbe semble être l'ultime condition de cet amour divin. Oh, l'amour, c'est une relation personnelle. Dieu n'assume pas la nature humaine par amour pour cette nature, mais par amour pour Israël et pour l'homme, tout homme. Ainsi assume-t-il les hommes, les femmes et même leurs péchés. Oh, le but de l'incarnation, dans un sens, c'est la mort du Christ en laquelle Dieu se donne non seulement à la nature, mais à l'homme. Et ainsi, la révélation de l'amour s'identifie au mystère de la rédemption divine, de cette libération qui s'accomplit. Et qu'est-ce que c'est que cette rédemption, sinon précisément le don que Dieu fait de soi-même à chaque homme? Nous ne sommes sauvés que parce que Dieu se donne à nous et qu'il vit en nous. Qu'est-elle donc, sinon
La rédemption, c'est pas l'assomption. Dans le Christ, des hommes et des femmes pécheurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est dans l'Épître aux Romains, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions pécheurs, est mort pour nous. L'acte de la mort du Christ a donné naissance à l'Église, qui est son corps mystique. Ah, voilà le mystère auquel s'identifie cette révélation de l'amour. Ô douce Église, bafouée, maltraitée, douce Église. De fait, la mort du Christ, c'est pour saint Paul et pour saint Jean la consommation de l'union nuptiale de l'époux pour l'épouse, de Dieu avec l'homme. Dans les hommes, dans les femmes, devenus un seul corps dans le Christ, l'amour de Dieu vivra comme signe de leur unité. Ça se fait dans l'Église. Et l'Église, par sa liturgie, par sa messe, elle actualise, elle répand sur l'assemblée du peuple de Dieu la grâce d'amour. Puis le mystère de communion, là, dont je vous ai parlé, le mystère de communion qui sont en la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On entend ça au début de la messe souvent, puis c'est un souhait de saint Paul à l'Église de Corinthe, qui arrive jusqu'à nous tous les jours, dans toute liturgie, dans toute messe. Vous connaissez ces paroles, vous qui allez à la messe. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est d'une grande beauté, mais on entend ça, puis on n'y pense plus. Dieu le Père, il est la source puis la fin de la messe. Il est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions de la création puis du salut dont il nous a bénis en son Fils pour nous donner l'esprit de l'adoption filiale. C'est dans le catéchisme catholique, le gros catéchisme qui a été publié il y a quelques années. Saint Paul dit aux Éphésiens quelque chose de très beau. C'est donc beau, Saint Paul. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Ce sont de très beaux textes, un peu compliqués à prime abord, mais quand on les médite, là, ah, si vous avez les épîtres, l'épître aux Éphésiens chez vous, là, lisez ça doucement. Mangez ça comme des olives. Mangez ça comme les meilleurs chocolats. Oh. De bien piètre comparaison. Buvez ça, petite gorgée. C'est d'une grande beauté, très grande beauté. La bénédiction de Dieu dont il est question là-dedans, dans ce texte, c'est à la fois la parole et le don. Dès le commencement, Dieu bénit les êtres vivants, spécialement l'homme et la femme. Au début de la Bible, cette bénédiction divine est source de fécondité. Bénir est donc une action divine qui donne la vie. Mais plus, elle est rencontre de Dieu et de l'homme. C'est surtout à partir d'Abraham que la bénédiction divine pénètre l'histoire des hommes. Par la foi du père des croyants, Abraham, qui accueille la bénédiction, lui, c'est comme ça que commence l'histoire du salut. Tu sais, dans la Genèse, au chapitre 22, c'est écrit « Je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre. » Alors, on peut dire que c'est à main forte et à bras étendus que Dieu, comme une immense bénédiction divine, conduit son peuple jusqu'au don de son propre Fils, et que par lui, il va le mener jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'au ciel. Ça implique une double dimension, hein? Le Père qui bénit par toutes sortes de bénédictions spirituelles, puis le peuple, nous, qui accueillons ces bénédictions. Nous donnons au Père en retour une réponse d'amour, une louange à sa gloire. Hein? On est invité par le psaume 106, pas d'aujourd'hui, 2500 ans, qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, si nous sommes invités à rendre grâce. C'est ce qu'on fait à la messe, c'est une action de grâce immense, Eucharistie, c'est ça que ça veut dire. Et de même que l'Église bénit le Père pour son don ineffable, par l'adoration, puis la louange, puis l'action de grâce, et elle ne cesse d'offrir au Père l'offrande de ses propres dons. Oui, et de l'implorer d'envoyer l'Esprit-Saint sur elle-même, sur les fidèles, sur le monde entier. C'est ce qu'on demande. On demande des belles choses, c'est pas des petites choses qu'on demande à la messe. C'est les plus grandes, d'envoyer l'Esprit-Saint sur l'Église, sur les fidèles, puis sur le monde entier. Ah, si l'Esprit-Saint, si on était exaucé, mais pour être exaucé, il faut qu'on ait Dieu. Il faut que nous-mêmes, nous soyons remplis de l'Esprit-Saint. Le Christ dans la messe, c'est ce Dieu qui parmi nous a dressé sa tente, celui qui la rend, par qui la rencontre entre Dieu et les hommes se réalise. Hein? Il est le plus beau signe du Père, sa plus belle parole. En lui, il a tout dit. C'est Saint Jean de la Croix qui dit ça. En lui, il a tout dit. Le Père a tout dit en Jésus. C'est par le Fils que la gloire du Père est chantée. Hein? Nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Je vais vous parler demain de la très sainte face de Jésus et du Saint-Suaire. Dieu s'est rendu visible à nos yeux. Il est rendu visible surtout par sa parole qui est dans les évangiles. Dans l'Eucharistie, il nous est rendu visible sous la forme du pain et du vin, et le corps et le sang et l'âme de Jésus. Mais aussi, dans le Saint-Suaire, nous avons sa photo, la photo de Dieu, comme dit Claudel. Et quand son heure est venue, Jésus a vu l'unique événement de l'histoire qui ne passe pas. Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les morts, est assis à la droite du Père une fois pour toutes, car c'est pour cela que le Père l'a envoyé. Il est voulu comme l'unique accès à la réalité du salut. Hein? Le Christ est le sacrement, c'est le mystère de Dieu rendu visible. Celui qui réalise le grand, grand projet de Dieu parmi nous. L'Église est, en ce mystère, le grand sacrement issu du Christ. L'Église est née du côté du Christ endormi sur la croix, ce cœur transpercé, cet amour, ce sang, cette âme versée, cette âme qui recouvre le monde, cet amour. L'Église, c'est le moyen et l'instrument dont Dieu se sert pour réaliser son projet de salut, de libération. Les sacrements, comme la messe, les sacrements de pénitence ou de réconciliation, sont des signes sensibles. Il y a des paroles, des actions, mais c'est des signes sensibles efficaces, parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre par la puissance de l'Esprit-Saint, et le Christ glorifié demeure présent par le mystère de son Église, qui est son propre corps. Hein? L'Église, il faut l'aimer, malgré tous les péchés des hommes, tous nos péchés. L'Église en soi est immensément belle. Les apôtres rendent possible cette œuvre de salut. Hein? Il faut être apôtre, à l'exemple des apôtres. Ça a été écrit, ça, de même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même a envoyé ses apôtres, remplis de l'Esprit-Saint. Non seulement pour que, prêchant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan, ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume de son Père, mais aussi afin qu'ils exercent, les apôtres, cette œuvre de salut qu'ils annonçaient, par le sacrifice, c'est-à-dire la messe, et les sacrements, autour desquels gravite toute la vie liturgique. Ainsi, à leur tour, les apôtres et leurs successeurs deviennent signes sacramentels du Christ. Puis nous, ça fait les évêques, puis les prêtres, puis tout le monde, ça rend possible la liturgie terrestre. Jamais l'Église n'a omis de se réunir pour célébrer le mystère pascal, hein, et de la liturgie, principalement de l'Eucharistie, c'est là-dessus que j'insiste aujourd'hui, comme d'une source. Découle la grâce en nous. La grâce vient de l'Eucharistie au fond de nos cœurs. Découle en nous de la liturgie, principalement de l'Eucharistie, comme une source. La messe enflamme les fidèles à la charité. La flamme qui va sanctifier, qui va nous permettre de rendre louange à Dieu. La liturgie terrestre, c'est un avant-goût de la liturgie céleste. C'est ce qu'on va faire durant l'éternité. Il y en a qui vont dire, oh là là. Mais non, ça va être merveilleux. La liturgie céleste à laquelle nous tendons, hein, alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Hein. Ce sont des textes qu'on nous enseigne. L'œuvre de l'Esprit-Saint au cœur de l'Église, c'est de nous amener à vivre de la vie du ressuscité Jésus, notre Seigneur. Et dans ce sens, l'Esprit-Saint prépare l'Église à rencontrer son Seigneur. L'Esprit-Saint rappelle et manifeste le Christ à la foi de l'Assemblée. L'Esprit-Saint rend présent puis actualise le mystère du Christ par sa puissance transformante. L'Esprit-Saint, l'Esprit de communion, unit l'Église à la vie et à la mission du Christ. L'Esprit-Saint prépare, oui, à accueillir le Christ. L'Église du Christ était admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël puis dans l'Ancienne Alliance. Et on peut dire que la liturgie de l'Église garde comme une partie intégrante, là, puis irremplaçable, en les faisant sien des éléments du culte. Hein. On fait un peu comme nos ancêtres juifs, il y a la lecture de l'Ancien Testament, la prière des psaumes, puis la mémoire des événements sauveurs qui ont trouvé leur accomplissement dans le mystère du Christ, dans la vie du Christ. La catéchèse faite par le Christ aux disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez, au lendemain de la résurrection, puis encore celle faite à Philippe, par Philippe plutôt à l'eunuque éthiopien, ça montre bien l'importance des Saintes Écritures puis du Messie promis. Philippe, c'est dit dans le texte, Philippe, partant de ce texte de l'Écriture, d'Isaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Si on pouvait donc faire la même chose. Hein? L'Esprit-Saint rappelle le mystère du Christ. L'Esprit-Saint, c'est la mémoire vivante de l'Église. C'est lui qui donne à l'Assemblée l'intelligence spirituelle pour comprendre la parole de Dieu proclamée, puis le sens de tout l'événement du salut. C'est l'Esprit-Saint qui nous guide, qui nous éclaire. C'est lui qui suscite la réponse de foi aussi quand on dit le credo. L'Esprit-Saint qui éveille la mémoire de l'Église suscite alors l'action de grâce puis la louange qui termine juste avant le pater quand on dit « par lui, avec lui, en lui ». À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ah, l'Esprit-Saint, il actualise le mystère du Christ. La liturgie chrétienne, la messe, elle rappelle non seulement les événements qui nous ont sauvés, mais les actualise, ça nous les rend présents, hein, le plus beau geste d'amour. Le don ineffable du Christ mort et ressuscité n'est jamais une répétition du passé. C'est une réalité toujours vivante. Dans chaque célébration, au moment, là, juste avant la consécration, le prêtre supplie d'envoyer l'Esprit sanctificateur, vous savez, sur les offrandes, pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. Et c'est par la puissance transformante de l'Esprit-Saint que s'accomplit au cœur de chaque célébration ce miracle d'amour. Oui, c'est là le miracle de l'amour. C'est saint Jean Damascène qui déclare à ce sujet: tu demandes comment le pain devient corps du Christ, puis le vin sang du Christ. Moi, je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Alors, l'Esprit-Saint nous met en communion avec le Christ. L'Esprit-Saint nous rend aptes à comprendre puis à aimer les merveilles du salut accompli en Jésus. Et puis, il nous met en communion avec celui qu'on appelle le Verbe de vie, Jésus. Bien, le Verbe s'est fait chair, il a établi sa demeure parmi nous. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, c'est dans saint Jean. Saint Jean qui dit aussi, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Il dit aussi, quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, dans ses épîtres. Le fruit de l'Esprit-Saint dans la liturgie, c'est inséparablement communion avec la Trinité Sainte. C'est communion fraternelle aussi. Et cette communion à la messe, là, exige de notre part une ouverture du cœur, une adhésion aux souhaits que nous fait l'Église et que nous citions, et que je vous ai déjà cité, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans saint Paul. Et c'est au début de chaque messe. Alors que notre réponse ne soit pas endormie, qu'on cesse d'assister à la messe comme si nous y dormions presque dans une routine stérile, stérilisante, mais que notre réponse à la messe soit ardente et communicative, afin d'être à notre tour, par la grâce de la très sainte messe, une révélation de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Pour ça, je vais aller à la messe aujourd'hui au Jésus, à 5 heures. C'est le Père Leblon qui va célébrer. Il célèbre admirablement bien. Il est vraiment digne et juste. Il convient à la splendeur sans borne de ta sainteté, ô seul vrai Dieu, de te louer, de te bénir, de t'adorer, de chanter ta grâce et ta gloire, de t'offrir d'un cœur brisé dans l'esprit des pauvres cette offrande spirituelle pour accueillir la révélation de la vérité. Qui pourrait dire l'immensité de tes œuvres et qui pourrait te louer pour tes merveilles? Les merveilles que tu as accomplies tout au long des âges. Tu es le maître de l'univers, le seigneur du ciel et de la terre, de toute réalité visible et invisible. Tu sièges sur le trône de la gloire et tu sondes les abîmes. Toi qui es au-delà du temps, au-delà de la vision, au-delà de l'intelligence, au-delà de la limite et du mouvement, tu es aussi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le gardien de notre espérance. Il est l'image de ta gloire, l'expression parfaite de ton être, le Verbe vivant, Dieu véritable, sagesse éternelle, vie, sanctification, vraie lumière. Par lui resplendit l'Esprit Saint, esprit de vérité, don de l'adoption, commencement de la plénitude éternelle, force qui vivifie, fontaine de sainteté. C'est en lui, par sa vigueur, que toute créature intelligente et spirituelle te célèbre et chante sans fin ta gloire. Ça vient de la liturgie byzantine de Saint Basile.